RFJ Info.
Le journal d'Alexandre Rosset.
Bonjour, des graines jurassiennes qui s'aiment un peu partout dans le monde. Le jardin botanique de Porrentruy procède fréquemment à de nombreux échanges avec d'autres établissements. Les plantes du massif jurassien ont particulièrement du succès. C'est une date qui rappellera à certains le 18 juin 2017. Il y a 50 ans, jour pour jour, le général de Gaulle s'exclamait « Vive le Québec libre » à Montréal. Retour sur cet événement qui avait suscité de nombreuses réactions à l'époque. Christopher Froome a une nouvelle fois été sacré sur le Tour de France. Le Britannique termine en tête au général sans avoir gagné d'étape. L'ancien coureur français Christophe Moreau nous fera part de son analyse dans le Point Sport. Le soleil devrait se forcer un passage à travers les nuages. De belles éclaircies sont annoncées cet après-midi, même si quelques averses pourraient encore se déclencher. Les températures resteront plutôt fraîches. Les plantes jurassiennes vont fleurir les collections du monde entier. Le rapport d'activité 2016 de Jurassica, paru récemment, tire le bilan de l'année écoulée pour le jardin botanique. Parmi ses travaux d'importance, l'élaboration de son index Seminum, son catalogue de grains issus de sa propre production. 736 espèces et variétés ont été proposées à l'échange. Des plantes originaires de Porrentruy peuvent ainsi pousser aux quatre coins du globe. Le jardinier chef du jardin botanique de Jurassica, Alain Mer.
Nous avons à peu près 400 adresses où nous envoyons notre index Seminum. Et puis c'est vrai qu'on reçoit des commandes après du monde entier.
La majeure partie, ça reste quand même des institutions ou des jardins qui sont situés en Europe.
Oui, parce que si on regarde une carte mondiale des jardins botaniques, on voit qu'en Europe, il y a énormément de jardins botaniques. Donc les échanges là, ça reste majoritairement avec eux.
Dans les envois que vous faites, qu'est-ce qui est majoritairement demandé ?
Alors, c'est ce qui fait notre succès, c'est notre jardin jurassien, donc les plantes du massif du Jura que l'on propose dans notre index Seminum. Il est bien apprécié.
Et vous, qu'est-ce que vous commandez ?
Alors, c'est vrai qu'on essaie de toujours un peu trouver quelque chose de rare ou quelque chose qui peut apparaître dans un catalogue qui peut améliorer notre collection. Alors, c'est vrai qu'on aime bien tout ce qui est cactacé. Si on trouve quelque chose de sympa, on va le prendre. On a un petit œil qui frise sur la liste des cactus.
Et ces échanges répondent à des normes plus strictes depuis les accords de Rio. Ces réglementations permettent le respect du patrimoine naturel de chaque pays, la traçabilité et la conservation de certaines plantes. Elles évitent aussi une utilisation commerciale des graines. Les autruchons gambadent sur les prés de la Joule. Parc Aventure Autruche abrite depuis quelques temps déjà de nouveaux pensionnaires nés sur l'exploitation. La période est à la ponte et les grands volatiles de la ferme ont déjà donné naissance à 25 petits. Chaque semaine, durant encore un mois et demi, de nouveaux autruchons viendront compléter le cheptel. De quoi faire la joie des visiteurs, mais aussi du propriétaire Joseph Noirjean. L'éleveur nous dévoile son secret pour obtenir autant de naissances.
Elle commence de pondre en avril, les autruches, je ramasse les œufs puis je les mets en couveuse. Puis dans la couveuse, je mets une fois par semaine les œufs, parce que c'est 42 jours dans la couveuse. Puis comme ça, en les mettant chaque semaine, après, une fois qu'il y a le tournus, une semaine j'en sors, puis ça fait de la place pour en remettre.
Ça évite aussi que ce soit les autruches elles-mêmes qui couvent et puis qu'elles arrêtent de pondre, c'est ça ?
Voilà, ouais, si je laisse les œufs, ben, après elles arrêtent, puis elles se mettent à couver. Alors, donc il y a moins d'œufs, moins d'autruchons pour la saison. Après, avec le temps, j'aimerais les laisser pondre, mais les derniers œufs de l'année, ceux du mois de juillet.
Alors, il y a plusieurs stades, justement. Est-ce qu'on peut laisser différents âges d'autruchons ensemble ?
Oui, alors au début, je les laisse ensemble. Comme ça, les grands, ils montrent aux plus petits ben, où est l'eau, où est la nourriture, tout ça. Puis après, je suis obligé d'ôter les plus grands. Je les mets dans un petit parc à côté, parce que quand ils courent, ils renversent les petits, ils ne regardent pas quand ils courent. Hein.
Ça pourrait faire des blessés, voire plus graves ?
Non, parce que ce n'est pas violent. Quoi. Ils font un petit roulé-boule et ils ne tombent pas de haut, les petits. Hein. Ils font 15 cm de haut, 20 cm. Hein. Ouais.
Joseph Noirjean répondait à Isabelle Chapat. Le parc Aventure Autruche est ouvert chaque jour, à l'exception du lundi. Retrouvez les détails en lien sur notre site internet. Et le destin de ces autruchons sera évoqué ce soir dans notre édition de 18h. Nous verrons que, comme dans le cochon, tout est bon dans l'autruchon. La paroisse de Vermes-en-Velier-Ailay a tenu son pari. Elle va pouvoir rénover l'intérieur de l'église Saint-Pierre et Paul. Un projet d'envergure destiné à préserver le trésor qu'elle abrite. Des fresques gothiques datant du 15e siècle. Nous l'annoncions en avril dernier, la paroisse devait encore réunir 220 000 francs pour lancer les travaux. Aujourd'hui, le projet va devenir réalité. Grâce à une récolte de dons, les rénovations pourront débuter au mois d'août. Les fresques murales du site ont valu à l'église de Vermes d'être classées monument historique. botanique par la Confédération. La Fondation UBS pour la culture a elle aussi jugé ces illustrations dignes d'intérêt. Elle a ainsi décidé de soutenir le projet de rénovation à hauteur de 20 000 francs. Se faire implanter une puce électronique sous la peau, c'est ce qu'a réalisé le prévôtois Nicolas Chiladaki le 19 juillet dernier. Ce trentenaire a commandé un kit aux États-Unis par Internet qu'il a reçu directement à la maison. L'habitante de Moutier a ensuite pris rendez-vous chez un professionnel des piercings à balles, partenaire de l'entreprise qui commercialise la puce. Celui-ci la lui a placée minutieusement entre le pouce et l'index de la main droite. Depuis un an, ce type d'opération n'a été réalisé qu'une dizaine de fois. Nicolas Chiladaki est donc pionnier dans la région. Il nous explique comment lui est venue cette idée.
J'ai toujours aimé les nouvelles technologies. C'est un monde qui m'a toujours attiré. Et puis, en voyant un reportage à la télé, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait m'être utile, surtout au niveau des clés de voiture, au niveau des clés de badgeage, de tout ce qu'on utilise tous les jours. C'est assez sympa de pouvoir avoir simplement sa main pour se loguer, je trouvais intéressant. Pour moi, à la base, c'était vraiment un gadget que j'avais envie d'essayer et on voit gentiment les possibilités qu'on peut avoir, je trouve ça intéressant. Alors je dirais la première possibilité qu'on a, c'est de mettre une puce RFID pour qu'on n'ait plus besoin de badge de voiture, donc plus de clés, c'est les fameuses clés où on n'a pas besoin de mettre au contact, donc on rentre dans sa voiture directement avec son login dans la main. Et puis je dirais le badge du travail pour les portes, typiquement. Pour la porte de la maison, maintenant on a les nouvelles serrures qui sont connectées directement. Donc là, il n'y a pas de problème, vous rentrez chez vous directement sans clé, pas de perte de clé. C'est surtout pour une forme pratique que je trouve intéressant.
Vous m'avez aussi dit que vous pouvez avoir votre dossier médical implanté dans cette puce.
Oui, tout à fait. Typiquement, moi qui ai un gros dossier médical avec une prothèse au cœur, des choses que les gens doivent savoir en cas d'accident, je vais pouvoir mettre toutes mes données dans ma puce et dans les nouveaux hôpitaux, on vous scanne automatiquement pour savoir si vous avez un chips avec des données médicales dedans.
Nicolas Chiladaki répondait à Jérôme Bechat. L'achat de la puce, les frais de douane et l'implant chez un professionnel du piercing a coûté environ 250 francs. Une opération de police est en cours à Chaffouz. Une partie de la vieille ville a été entièrement bouclée ce matin en raison d'une situation spéciale. Une porte-parole de la police a confirmé une information diffusée sur bic.ch sans donner plus de détails. Le Matin indique de son côté qu'un homme aurait été observé avec une tronçonneuse à la main. L'aéroport de Zurich a battu hier son record quotidien de passagers. Près de 107 000 personnes ont atterri, décollé ou transité par Kloten. C'est presque autant qu'à Genève-Cointrin pour tout le week-end. Durant une journée normale, l'aéroport de Zurich compte environ 77 000 voyageurs. Le précédent record avait été établi le 29 juillet dernier avec 103 000 passagers. La Suisse est le pays le plus innovateur du monde. C'est ce que révèle aujourd'hui un indicateur publié par le Centre pour la recherche économique européenne à Mannheim. Au classement, Singapour, la Belgique et l'Allemagne suivent notre pays. La Suisse, qui occupe cette place depuis plusieurs années, est le seul pays à avoir reçu un score élevé dans chacun des 5 domaines observés parmi les 35 économies nationales présentées dans cette étude. L'économie, la science ou encore la formation sont notamment pris en compte. À l'étranger, le président polonais va opposer son droit de veto à 2 des 3 projets de loi fortement contestés qui doivent réformer le système judiciaire. Andrzej Duda l'a annoncé ce matin dans une déclaration télévisée. Le projet était critiqué par l'Union européenne et l'opposition qui a manifesté en masse pour réclamer ce veto présidentiel, qualifiant l'initiative d'atteinte à l'équilibre des pouvoirs. 4 mots qui ont fait le tour du monde il y a pile 50 ans, le 24 juillet 1967, le général de Gaulle prononçait sa célèbre phrase « Vive le Québec libre » à Montréal. Les mots du président français ont provoqué une véritable tempête de réprobation, tant au niveau diplomatique que médiatique. Des réactions dont le général de Gaulle se moquera quelques jours plus tard en fustigeant tout ce qui grouille, grenouille et scribouille. Son fameux « Vive le Québec libre » était improvisé, mais il ne devait rien au hasard. Le général de Gaulle avait soigneusement calculé son coup. François Comte nous replonge en juillet 1967.
Invité à visiter l'exposition universelle à Montréal, le général de Gaulle choisit de se rendre au Québec en bateau. L'avion l'aurait obligé à se poser à Ottawa pour être accueilli par le gouvernement canadien. Le général de Gaulle accoste donc directement sur le sol de la belle province et fait ainsi un premier pied de nez au Canada. Le président français remonte ensuite en voiture le chemin du roi, la route qui mène de Québec à Montréal. Il est acclamé par des foules en liesse qui lui réservent un triomphe digne des Césars. Arrivé à l'hôtel de ville de Montréal, le général de Gaulle s'adresse à la foule depuis le balcon.
Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération.
Le général de Gaulle va finalement aller au-delà des espoirs de ceux qu'il appelle les Français du Canada. Il ne résiste pas au triple plaisir de favoriser l'émancipation du Québec, de renforcer l'influence de la France et de fâcher la Grande-Bretagne et les États-Unis, alliés traditionnels du Canada.
Vive Montréal ! Vive le Québec ! Vive le Québec libre ! Canada français et vive la France!
La foule exulte, mais le gouvernement canadien s'étrangle. Il dénonce des propos inacceptables et le général de Gaulle décide d'écourter son voyage sans passer par Ottawa. Les mots du président français vont résonner dans le monde entier, y compris dans le Jura, alors en lutte pour son indépendance. Toute proportion gardée, l'atmosphère dans laquelle ils ont été prononcés nous rappelle un récent 18 juin à Moutier. Le 18 juin tient encore une date gaullienne.
Et un livre qui retrace le voyage du général de Gaulle au Québec est paru récemment. Il s'intitule « La dette de Louis XV » et a été écrit par Christophe Tardieu. L'ouvrage est publié aux éditions du Cerf.
RFJ, il est 12h27.
Le sport avec la Loterie Romande.
Le 104e Tour de France s'est achevé hier avec un nouveau sacre de Christopher Froome. Le cycliste britannique a remporté la grande boucle pour la 4e fois. Le leader de l'équipe Sky est arrivé en jaune sur les Champs-Élysées sans avoir gagné la moindre étape. Christopher Froome est-il donc un beau vainqueur de ce Tour de France? Question posée à notre consultant cyclisme, l'ancien coureur français Christophe Moreau.
Il est peut-être beau dans la façon de gérer son Tour de France. C'est vrai qu'il n'a pas eu le panache qu'on aurait souhaité peut-être d'aller chercher les victoires d'étape. Il a su gérer avec sa formation les différentes attaques, les différentes offensives des rivaux, en gardant même un petit pécule d'avance, en dominant le contre-la-montre, mais néanmoins une gestion plutôt globale, plutôt ric-et-rac et moins dominatrice que les années passées.
D'où l'importance, et peut-être plus sur ce tour que sur les précédents, d'avoir une grosse écurie, l'équipe Sky. S'il n'avait pas eu cette équipe derrière lui, ça aurait peut-être été plus difficile.
Dans le cyclisme moderne, le futur vainqueur du tour est obligé d'avoir une équipe solide, une équipe complète sur tous les terrains, qui est capable de pouvoir rouler sur des étapes de plaine, mais aussi d'être très performante en montagne, comme on l'a vu avec Mikel Landa. Donc c'est vrai que l'écurie est primordiale. Froome, on l'a vu, il a 32 ans, c'est son 4e victoire sur le Tour de France, mais il est un petit peu moins fort. Et j'entendais encore ce matin que Nicolas Portal, le directeur sportif, disait qu'il faudra peut-être encore intensifier la solidité de l'équipe en ayant un Christopher Froome vieillissant pour pouvoir construire avec lui autour d'une équipe qui, aujourd'hui, prévaut plus que l'individualité dans un groupe.
Des propos recueillis par Raphaël Chalvera. Je vous souhaite une belle après-midi.
Il s'est arrêté de pleuvoir, les nuages sont ceci dit toujours présents. Il se peut, selon Météo News, que nous ayons de belles éclaircies durant l'après-midi, mais rien de sûr et pas de quoi se bronzer, plutôt de quoi en profiter avant le retour des orages qui seront persistants. Ils s'abattront dès la fin de la journée sur l'ensemble de la région. Côté température, aujourd'hui, eh bien, il fait très frais. Il fait en ce moment 18 degrés à Porrentruy, 19 à Delémont et Moutier et 14 degrés à Seigne-Légier. Demain, ce sera le même menu météorologique qu'aujourd'hui, de la pluie, des averses, du froid, un peu de vent et de la fraîcheur pour le soleil. Il va falloir prendre rendez-vous mercredi.